C'est Platon Malin sur RCN, Margot Gross.
Et à tous, vous êtes sur RCN et vous écoutez Fait Platon Malin, votre émission consacrée à la philosophie et au cinéma, un jeudi sur deux de 14h à 14h30. Et aujourd'hui, on est avec François Danzé, professeur de philosophie en Meuse. On va parler du biopic Into the Wild, sorti en 2007, réalisé par Sean Penn et adapté du récit éponyme relatant l'histoire vraie de Christopher McCandless.
RCN Fait Platon Malin, Margot Gross.
Salut François, comment ça va ?
Salut, merci de m'avoir reçu, ça me fait plaisir d'être ici.
C'est la première fois que tu viens dans nos locaux, on est très contents de te recevoir.
Absolument, plaisir partagé.
Pour commencer, est-ce que tu peux rappeler un petit peu aux auditeurs le pitch du film Into the Wild ? Si tu devais résumer le film en quelques mots, tu dirais quoi ?
Oui, alors c'est en fait l'histoire d'un jeune étudiant américain, Christopher, hein, Chris plus familièrement, qui est un étudiant brillant, qui vient de finir ses études et qui est destiné normalement à intégrer la société américaine, la haute société américaine, et gravir les échelons comme le voudraient ses parents. Sauf que Christopher va en décider autrement, et parce qu'il a un profond sentiment d'enfermement, en fait, dans cette vie où tout est réglé, normé, Christopher va décider de partir loin, de commencer à vagabonder et sans dire au revoir à personne, sans prévenir sa famille, abandonnant sa voiture, il va peu à peu chercher à retrouver, en fait, les racines avec une nature qui a été perdue par la société. Et donc, on va voir Christopher, en fait, partir à la fois, on va le voir traverser le Grand Canyon, on va le voir aussi dans des exploitations agricoles, aller au Mexique et enfin aller en Alaska où il va, seul, au milieu de cette nature sauvage, eh bien, trouver un bus abandonné dans lequel il va vivre 100 jours, voilà, pour réfléchir sur la condition humaine, sur le sens de l'existence, et essayer de retrouver, de renouer un contact avec la nature, justement. Voilà, en gros, les grandes lignes du film.
Tu as regardé donc le film pour l'émission, tu le connaissais avant ?
Je l'avais vu à sa sortie, je l'avais vu au cinéma, donc il me semble que c'était aux alentours de 2005-2007 peut-être, ouais. J'ai plus la date exacte, mais je l'avais vu une première fois, c'est un film qui m'avait touché à l'époque, et ça m'a fait plaisir de le revoir, je l'ai revu hier pour l'émission justement, et je trouve que c'est un film qui n'a pas perdu en fait de son actualité, de son intérêt, et qui est encore très frappant aujourd'hui par rapport aux problèmes, aux enjeux de notre société.
Dans le film Into the Wild, le personnage principal décide, comme tu l'as dit, à 22 ans, de tout plaquer du jour au lendemain pour partir à l'aventure en Alaska. Et il rejette la société moderne de consommation, le confort aussi. Ça me fait un petit peu penser au récit Walden ou la vie dans les bois de Thoreau, où il raconte justement qu'il part vivre dans la forêt pour habiter dans une cabane pendant 2 ans, 2 mois et 2 jours. Est-ce qu'on peut dire que dans Into the Wild, Christopher fuit un petit peu ses normes de civilisation.
Ah oui, clairement. Et la référence à Thoreau et à Walden est clairement explicitée. En fait, Chris est profondément marqué par cet ouvrage et cet auteur. Et effectivement, c'est un rejet du confort, c'est un rejet également de l'argent. Christopher va donner tout son argent, les plus de 25 000 $, je crois, il va faire don. Il va également abandonner sa voiture, qui est le symbole même de la liberté, entre guillemets, américaine de la société, pour renouer, comme Thoreau, avec la nature. Et on le voit, il y a toujours un souci. Thoreau était déjà quelqu'un qui avait un grand intérêt pour l'observation de la nature. Et Chris va lire énormément sur la faune et la flore sauvage et va chercher justement à retrouver un regard sur la nature qui était déjà celui de Thoreau, qui cherchait à quitter la civilisation pour retrouver justement ce qui précède en fait toute civilisation, ce à partir de quoi l'homme s'est construit et qui a été oublié, la nature dans son aspect sauvage justement.
Et justement, vivre dans la nature en autarcie, c'est un moyen pour Christopher d'expérimenter un mode de vie primitif loin de tout. C'était Rousseau justement qui disait « l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt ». Il y a une idéalisation comme ça de l'homme à l'état de nature.
Alors oui, idéalisation et on pourrait dire également nostalgie. C'est-à-dire que là, tu parles de Rousseau, effectivement, l'idée c'est de dire qu'effectivement, l'homme qui est bon par nature a été corrompu par la civilisation. Et si on veut retrouver cette bonté originelle de l'homme et chercher à sortir de tout l'aspect conflictuel de la société et en gros de toute la misère qu'apporte la société en tant que culture et civilisation, il faut renouer avec quelque chose d'originel. Sauf que cet originel a été perdu. Et donc tout l'enjeu est de réussir à retrouver en fait cet aspect sauvage de la nature. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir dans le film que progressivement, à mesure que Christopher, dans son périple, cherche à rejoindre l'Alaska, eh bien on va rejoindre une nature qui est de plus en plus sauvage. C'est « into the wild », c'est pas simplement la nature au sens où la nature, on peut la trouver à la campagne. On le voit travailler à la campagne à un moment, mais c'est encore une campagne qui est industrialisée, qui est pensée à partir de la société. Et c'est progressivement qu'il va réussir à trouver un espace où en fait il n'y a plus du tout une seule marque de la civilisation humaine, si ce n'est justement ce bus qui a été abandonné et qui est presque le symbole en fait d'une communauté disparue, une communauté peut-être originaire qu'il cherche à retrouver, mais en tout cas à la fin il est effectivement seul avec cette nature sauvage, immense et sublime également.
C'est le mythe du bon sauvage finalement.
Alors c'est toute la question est de savoir par rapport au film, est-ce que Chris croit au mythe du bon sauvage Qu'est-ce que c'est que cette origine perdue effectivement, il y a tout un mythe qui se construit. On peut penser tout à fait Rousseau, quand il pense l'état de nature, comme étant une remémoration moderne, idéalisée, transfigurée, donc mythifiée de ce qu'étaient les conditions de vie d'une humanité primitive. Ce qui va être frappant de voir dans l'expérience que Chris va faire en revenant en Alaska, c'est de comprendre à quel point cette nature sauvage, qui paraît également un lieu idéal pour l'homme, de renouer contact avec la nature est une nature en fait extrêmement violente aussi. C'est-à-dire que l'aspect sauvage de la nature, c'est une nature qui ne fait pas de cadeaux, une nature brutale et profondément aussi inhospitalière vis-à-vis de l'homme. Ça se voit particulièrement dans une scène où justement, alors qu'il meurt de faim, il voit un élan passer et il décide de tuer cet élan. Et il ne va pas réussir en fait à découper la viande à temps, les mouches vont venir pondre et finalement elle va être mangée par des loups. Et là, il se sent profondément en face de forces qui, dit-il, sont hostiles à l'homme. Et l'homme, en fait, originellement, c'est le bon sauvage, entre guillemets, est quand même un être qui a développé la technique et la culture pour réussir à sortir du caractère inhospitalier de la nature, une nature dangereuse et hostile.
Dans un instant, François, tu restes avec nous sur RCN et on parlera des autres thèmes qu'évoque le film Into the Wild et comment il s'illustre. Mais tout de suite, on écoute la bande-son de Into the Wild par Alberto Toledo Vuelven Dandomas.
Que solo vuelve más, que corre donde va, porque es duro. Y ves que tarde vuelves hoy, que puedes hoy mirar de dónde vales. y sentir su
Platon Malin sur RCN, Margot Gross.
C'était Vuelven d'Andomas à l'instant sur RCN. On est toujours avec François Danzé, professeur de philosophie. Tu es venu nous parler aujourd'hui du biopic Into the Wild. On disait tout à l'heure que c'est notamment un film dans lequel la thématique de la nature est très présente et elle peut même être perçue comme le deuxième personnage principal de ce film. Je reviens un petit peu à Rousseau dont on parlait tout à l'heure et précise d'ailleurs que grâce à l'état de nature, l'homme en tant que bon sauvage serait heureux. Dans Into the Wild, le personnage de Christopher est confronté justement lui à la solitude au milieu de nulle part. Ça paraît un petit peu contradictoire la notion de bonheur avec celle de solitude. Est-ce que c'est des notions opposées ?
Eh bien, tout l'enjeu du film est justement dans ce conflit entre le bonheur et la solitude, puisqu'on va voir en fait que Christopher, s'il rejette les normes de la société, n'est pas du tout quelqu'un qui est un misanthrope, c'est-à-dire que quelqu'un qui est assez ouvert aux autres et qui va être profondément, on va dire, accueilli par les autres, qui vont toujours se lier d'amitié, voire d'amour avec Christopher. Sauf que Christopher, lui, est dans une optique de fuite qui va le conduire effectivement à la solitude la plus dure, là où il est en Alaska, seul et dépourvu de toute trace humaine, en fait. Et toute la question, c'est de savoir si on peut être heureux en étant seul, véritablement seul. Et vraisemblablement, la morale, si on peut parler de morale du film, du moins ce vers quoi tend le film, c'est précisément à dire que le bonheur ne se fait pas seul, qu'il faut retrouver une communauté humaine qui n'est pas forcément une société. Il peut y avoir une différence entre la société au sens d'un grand nombre d'hommes qui vont travailler ensemble, qui vont passer des contrats, etc. Et une communauté qui est, on va dire, une plus petite association humaine qui va vivre, on va dire, relativement simplement, mais qui va encore garder un contact avec la nature. Et ce qui est frappant, c'est de voir qu'au début du film, en fait, il abandonne la voiture, qui est vraiment, on va dire, le symbole de la locomotion et de la liberté individuelle propre à la civilisation américaine et occidentale de manière générale, et qu'à la fin, on va le voir arriver dans un bus qui est quand même, en fait, un lieu symbolique, au sens où le bus, c'est une pluralité de personnes, un petit groupe de personnes qui pourraient vivre. Et lui, il est seul dans ce bus abandonné. En fait, c'est comme si, abandonnant cette petite communauté dans laquelle il pourrait trouver son bonheur, dans laquelle le bonheur s'ouvrait à lui, des amis qu'il a rencontrés sur le chemin, un amour possible, etc. Eh bien, ayant abandonné tout cela, il se rend compte que le véritable bonheur n'est pas la solitude au sein de la nature, mais précisément une communauté qui arrive, tout en restant proche de la nature, eh bien, à être heureux ensemble, quoi. Et à la fin, Chris décide, veut... revenir en fait vers cette communauté humaine. Il ne pourra pas y arriver, mais c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il souhaite, c'est la sagesse qu'il obtient à la fin du film.
Il écrit justement dans son carnet de voyage « Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé ». Est-ce que ça veut dire que le bonheur implique forcément la nécessité de vivre avec d'autres personnes et qu'on ne peut pas vivre le bonheur en étant seul ?
Eh bien, je pense qu'à la fin, on ne peut pas être heureux et seul. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire que la solitude n'est que quelque chose de négatif. C'est-à-dire que cette vérité qui peut paraître extrêmement simple, quoi, voire triviale, en fait est très profonde, parce qu'il se rend compte au plus profond de cette solitude, une solitude essentielle, que le bonheur est quelque chose qui se partage. Dit comme ça, c'est toujours très trivial, mais au terme d'une expérience et d'une longue quête spirituelle, hein, puisque c'est une quête spirituelle et une recherche de soi, il se rend compte à la fois de qui il est, au plus profond de lui-même, et que dans cette solitude, le vrai bonheur advient quand il se partage après avoir eu conscience de sa solitude. Il faut d'abord avoir conscience de ce que ça signifie être seul, pour justement être capable de nouer des relations qui soient des relations profondes avec les gens. Celui qui n'a pas la conscience de sa solitude ne sera peut-être pas capable de nouer des relations profondes dans l'amitié ou dans l'amour et va un petit peu comme la famille de Christopher, ses parents avec qui il a, on va dire, un conflit assez important. Justement, c'est, en fait, sa critique de la société, on va le dire comme ça, est une critique de liens qui sont factices, de pseudo-liens. Et pour retrouver un lien véritable avec les gens, à partir de quoi un bonheur est possible, il faut expérimenter la solitude et dépasser la solitude.
Dans la bande-annonce du film Into the Wild, on nous dit « Certains partent en quête d'aventure ». Christopher McCandless était parti en quête de lui-même. Il est devenu quelque part chasseur-cueilleur en rupture complète avec la société, une rupture dans laquelle il trouve une forme de liberté, de mobilité grâce à la nature. Cette idéalisation de la nature dont on parlait tout à l'heure, elle existe aussi chez les Grecs anciens comme une nature libératrice, c'est ça ?
Oui, alors, bon, les Grecs avaient un fort sentiment de la nature, mais en même temps, les Grecs sont parmi les premiers vraiment à édifier et à penser ce qu'on appelle la politique. Le mot même de polis, la ville, est un mot grec. Et si les Grecs ont encore, on va dire, un rapport nature-culture, qui est une culture dans le prolongement de la nature, peu à peu, et même déjà chez les Grecs, dans leur rapport à la technique, commence à s'opérer une scission qui va véritablement, on va dire, s'effectuer dans le judéo-christianisme. D'ailleurs, hein, le film est marqué par le rapport aussi conflictuel, non seulement de Christ à l'égard de sa famille, mais de Christ à l'égard de la religion, en un sens plus général. La religion des Grecs est encore une religion qui est liée à la nature. Les dieux grecs symbolisent encore des puissances naturelles, et les Grecs se pensent encore au sein d'un cosmos, d'un ordre de la nature qui soit harmonieux, bien ordonné, contrairement, on va dire, au judéo-christianisme, qui a pensé une claire séparation entre la nature, qui est le lieu du péché, le lieu du mal, avec, on va dire, le royaume de Dieu, d'où l'humanité a été exclue. Là, Christopher, dans son rapport conflictuel avec la religion, cherche à revenir, effectivement, dans une quête de soi-même, dans un rapport qui soit un rapport d'harmonie avec la nature.
Je vous propose de continuer en musique avec Maggie Rogers, Alaska.
Took my breath away. Moving slowly through westward water over glacial plains, and I walked off you, and I walked off an old me. Old me, oh my, I thought it was a dream. So it seems
RCN fait Platon Malin, Margot Gross.
C'était Maggie Rogers à l'instant avec Alaska sur RCN. On est toujours avec François Danzé. Tu es professeur de philosophie et tu es venu nous parler du film Into the Wild pour nous donner des éléments d'analyse philosophique. On disait tout à l'heure que le personnage principal de Christopher vivait en totale communion avec la nature. Cette communion, elle est marquée justement par le moment où il décide de se nourrir à la fin de plantes sans savoir qu'elles sont toxiques, ce qui va lui être fatal. Quelque part, c'est un petit peu l'illustration de la confrontation nature-homme qui montre les limites de l'idéalisation de la nature que Christopher se faisait. Et il dit lui-même à la fin qu'il a été pris au piège de la nature. Il réalise qu'il était en fait soumis aux lois insoupçonnées de la nature dont il comprend la force un peu trop tard. Est-ce que ça le rend pas quelque part esclave de la nature ?
Oui, c'est une bonne manière de le dire, puisque au tout début du film, il parle, pour dire sa condition sociale, un sentiment d'enfermement au sein de la société. Et c'est justement au nom d'une liberté absolue qu'il décide d'aller dans cette nature sauvage. Et ce qui est paradoxal, c'est que justement, retrouvant cette nature sauvage, là, de nouveau, il est pris au piège, de nouveau, il est enfermé. Il est enfermé parce que justement, la civilisation nous a fait perdre nos instincts. Hein. Ça, ce serait une manière, on va dire, un peu plus nietzschéenne peut-être de le dire, hein, qui comprend en fait le développement de la civilisation humaine, de la rationalité humaine, comme une perte des instincts. Et effectivement, à la fin, Chris va mourir parce qu'il va confondre deux plantes, parce qu'il est dépendant encore pour savoir de quoi se nourrir, d'un manuel, de reconnaître des plantes, c'est-à-dire d'un savoir qui est issu de la civilisation. C'est-à-dire qu'il a beau vouloir revenir à la nature originelle, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il a perdu ses instincts, il a perdu son animalité telle qu'elle existait avant que se développe la rationalité.
Et est-ce que dans Into the Wild, ça veut dire que quelque part, on ne peut jamais trouver une liberté totale, une autonomie totale ? Parce qu'on pourrait se dire, il est dans un milieu, il est au milieu de nulle part, sans personne pour lui dicter des règles. Comment il pourrait ne pas être libre ?
Et la question après, c'est qu'est-ce que la liberté ? Est-ce que c'est de faire absolument tout ce que l'on veut sans contrainte ? Visiblement, ce n'est pas le cas. La liberté, est justement, hein, ne peut se penser qu'en opposition avec la servitude ou avec du moins ce qui vient limiter, ce qui vient faire obstacle. Et tout l'enjeu de la personne qui, on va dire, est libre, c'est non pas, on va dire, une liberté qui serait toujours déjà acquise, mais le fait de se libérer d'eux ou de surmonter des obstacles. Et l'obstacle dernier est celui, au fond, de la solitude. Le but ultime, c'est de retrouver une liberté qui est une liberté partagée et qui demande, d'un point de vue de l'individu, certains sacrifices pour accepter l'individualité des autres.
Et on peut se demander justement si cette solitude l'amène pas quelque part à une forme de folie.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un lien profond entre la folie et cette solitude. Pourquoi ? Parce que bon, on a tendance à opposer la folie à la raison. La raison, c'est essentiellement, hein, ça vient du latin ratio qui vient du grec logos, c'est le langage, c'est également le dialogue. Voyez, l'homme est un individu, on va dire, est un être rationnel parce qu'il communique avec les autres. Moins on communique avec les autres, plus on tombe dans, on va dire, sa propre rationalité, sa propre logique, sa propre perception, qui va devenir peu à peu folie, effectivement. Être, on va dire, enfermé dans son propre monde, dans sa propre vue, sans être ouvert à l'extériorité et aux autres.
On arrive déjà presque à la fin de cette émission. Pour terminer, j'ai une dernière question qui est peut-être assez vaste. Est-ce que on peut parler d'humanisme pour qualifier le personnage de Christopher McCandless ?
C'est une question un peu difficile. On va dire, on peut trouver un profond humanisme dans Christopher parce que c'est quelqu'un, effectivement, hein, qui est aimé de tout le monde et qui vraiment fait preuve dans sa manière d'être et d'agir, on va dire, d'une profonde morale et de valeurs très profondes pour l'homme. En même temps, si on entend par humanisme le fait de mettre l'homme au centre, ça, j'en suis pas si sûr. Peut-être que justement, on pourrait voir derrière ce film une critique de l'humanisme au sens où l'homme cherche toujours à se mettre au centre de toute chose et qu'il faudrait chercher à décentrer le point de vue pour justement mettre non pas l'homme au centre, mais la nature.
Et finalement, il fait ce qu'on pourrait appeler l'écologie, mais c'est finalement une notion qui date pas d'hier, quoi.
Non, on sait qu'il y a déjà des réflexions il y a 50 ans très profondes sur l'écologie. Mais en fait, s'il y a des références à Walden, donc Thoreau ou Rousseau, c'est que la question de l'opposition entre nature et culture et du retour à la nature à partir d'une critique de la société et de la culture se fait déjà à la fin du XVIIIe siècle, on va dire à l'aube de la révolution industrielle.
Merci beaucoup François, on est très content de t'avoir reçu dans nos locaux, c'était un plaisir.
Eh ben merci, c'était un plaisir.
Merci de nous avoir écoutés, rendez-vous jeudi dans deux semaines de 14h à 14h30 pour la prochaine émission.